Nous sommes le jeudi 3 septembre, il est 21h et des poussières sur Radio Canu 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine, ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Pardon, je suis rouillé, vu que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait d'émission. Bonsoir, Romain.
Salut Xavier.
Comment tu vas ?
Ça va, bizarre de se retrouver ici avec depuis 2 mois.
C'est ça, c'est là.
C'était l'été. Pas prévu de faire une aussi grande pause, mais voilà.
Et oui, donc c'est la rentrée, nouvelle saison, nouvelle console.
Nouvelle console, et j'aurais bien aimé qu'on attaque avec un nouveau générique.
Mais
j'ai pas pris le temps de le faire. Ce sera fait, parce que j'ai bien l'intention, j'ai déjà un peu bossé dessus. Donc voilà,
le nerf de la game s'engage, il y aura un nouveau générique d'ici la fin de saison.
Un générique qui ne provoquera pas le fait que nos émissions sautent
sur les
plateformes.
Sur les plateformes, voilà. Mais bon, pour l'instant, vous pouvez toujours retrouver l'intégralité de nos émissions sur Presse F5, donc sur Nerf de la Game, pressef5.fr, grâce donc au collectif Presse F5, que l'on remercie comme à chaque fois, qui sera encore notre partenaire cette saison, et qui va héberger notre podcast. Et qui est aussi disponible sur Podcastix, aussi sur Deezer d'ailleurs.
Ok.
Voilà. Romain, tu as fait la rentrée un peu plus tôt que l'émission, vu que tu as déjà repris
le travail.
Tu as déjà repris le travail. Vu que tu fais toujours tes streams avec l'émission À vos souhaits, notamment le mercredi.
J'avais eu le plaisir de t'accueillir. Un jour où tu étais rentré chez moi par effraction, mais ça c'était un autre sujet.
C'est pas par effraction, la porte était ouverte.
Mais oui, on fait ça effectivement tous les mercredis après-midi, on parle un petit peu d'actualité, des jeux qui viennent, voilà, des nouveaux jeux, les sorties, et puis un petit peu de ce qu'on fait ici. En fait, on parle un petit peu de l'actualité de l'industrie, mais peut-être de façon plus générale, alors qu'ici on essaye de prendre un peu le temps d'en parler entre nous. Dans mon émission, je suis un peu tout seul à gérer ce que j'ai envie de dire. Quand on est ici, on essaye d'avoir différents avis et de les partager.
C'est ça. Ici, il est obligé de partager. Et d'habitude, d'ailleurs, on partage avec Bettina. Bettina n'a pas été virée cet été. On s'est concerté avec Romain et finalement, elle est restée.
Bah, 2 contre 1, forcément.
Finalement, elle est restée. Là, elle est pas là pour une très bonne raison. Et d'ailleurs, on lui souhaite tout le meilleur.
Voilà,
de bien en profiter. Et on la reverra la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a au sommaire cette semaine? Alors, d'habitude, on parle de gros sous, de lutte sociale et de jeux vidéo. Et on va parler surtout de jeux vidéo aujourd'hui. Un peu de gros sous aussi quand même, hein, on va pas se mentir.
De la lutte sociale, il y aurait des choses à dire, mais ce sera pas forcément pour
c'est
aujourd'hui,
ça.
Parce qu'il y aurait eu des choses à dire.
Exactement, vu qu'on va parler, on va se faire un petit bilan de la Gamescom. Alors on va pas faire un bilan complet sur tous les jeux, parce qu'il y en a une tétrachier et que c'est débile, on va pas partir là-dessus.
On a qu'une heure.
On a qu'une heure en plus, et puis on peut même pas se vanter d'être au courant de tous les jeux qui ont été présentés là-bas, entre ceux qu'on a vus à distance et ceux qui étaient présents sur place. En tout cas, juste pour rappeler ce qu'est la Gamescom, en fait, c'est quelque chose, c'est un événement qui a eu lieu du 26 au 30 août à la Kölner Messe de Köln, de Cologne, en Allemagne, donc.
Ça pète.
Oui. Où cet endroit en fait a été transformé une fois de plus en immense, j'allais dire laboratoire, pas tant que ça, mais enfin en immense présentoir,
présentoir
du jeu vidéo.
Et d'ailleurs, ça a pas commencé le 26.
Le 26 c'était là. Alors le 26 il y avait déjà les journalistes en fait qui étaient là. Voilà.
Donc, et le 25 c'était la grande soirée d'ouverture.
Oui, voilà, le 25 il y avait la grande soirée d'ouverture. Les journalistes sont arrivés le 26 et le public est arrivé le 27, si je dis pas de bêtises, hein. Voilà, c'est ça. Et donc ça a été, si tu rajoutes effectivement le mardi, c'est quasiment 5 jours en fait de démonstrations, de conférences, de rendez-vous professionnels, de stands plus ou moins gigantesques et surtout de visiteurs.
C'est un peu comme l'Indie Game Lyon.
Voilà, en tout petit peu plus gros.
Ouais, ils avaient un peu plus de place, un peu plus d'argent. Ils ont un peu tout copié, mais et puis ils ont Geoff Keighley.
Bettina, c'est notre Geoff Keighley à nous, je retiens la formule.
ce sera gardé de côté, ça.
Cette édition, elle a confirmé le statut de la Gamescom comme plus grand salon de jeux vidéo au monde en termes de fréquentation. Vu que les organisateurs annoncent 368 000 visiteurs venus de 131 pays, soit une progression de 3% par rapport à l'année dernière, mais on n'est pas sur le record absolu qui était celui de 2019, où c'était 373 000 visiteurs, mais bon, on va dire à une vache près, c'était à peu près
le max.
À peu près le max, quoi.
J'avais des chiffres, effectivement, la moyenne pré-Covid, on était à 327 000 visiteurs en moyenne, ouais. Avec effectivement ce pic 2019. Ensuite, il y a eu le Covid, deux années sans, 2020-2021, et 2022, la reprise s'était faite qu'à 265 000, et depuis, on monte régulièrement pour rattraper finalement les niveaux d'avant Covid, là, on y est.
Voilà, et en plus, qui dit visiteur dit aussi professionnel. Faut pas oublier qu'il y avait aussi 36 000 professionnels, juste en comptant les gens, et plus de 173 000 exposants issus de 66 pays différents, en tout, les stands occupaient quelque chose comme 233 000 mètres carrés.
Ouais, le lieu, c'est par rapport à Eurexpo à Lyon, je me rends pas compte.
Je crois que c'est encore plus grand.
Ouais, je pense que c'est plus grand, oui, en effet. Mais c'est pour donner une idée.
Je sais pas si on peut caler 300 000 personnes en 4 jours à la.
C'est la question, parce qu'il y avait quand même des questions de, comme tu disais, tout le monde n'était pas invité les mêmes jours. Il y a eu des jours où il y avait le public, d'autres jours où il y avait pas le public. Enfin, c'était les affluences n'ont pas forcément été régulières.
T'as eu des retours sur l'expérience des visiteurs, en fait, sur à quel point c'est blindé, justement?
Un peu, ouais, justement, et avec. C'était une question que t'avais posée, justement, dans la semaine, là, et parce qu'on se rend pas compte, fatalement, et comme on le disait aussi avant l'émission, on n'a pas forcément de retour là-dessus, sur l'expérience des. Les journalistes, forcément, ont une expérience différente, quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que j'ai envie de dire, même pour n'importe qui, finalement, se retrouver dans un espace comme ça, autant chargé, qu'est-ce que c'est comme expérience? Est-ce que tu passes ton temps à te cogner dans les gens? Est-ce que tu passes ton temps à galérer pour y aller? Parce que c'est quand même un site qui est pas non plus centre de Cologne.
Voilà.
C'est comme Eurexpo, un peu à l'écart.
C'est pas un site à ciel ouvert non plus, hein, donc.
C'est un espace fermé, etc., avec différentes branches à différents lieux, quoi,
C'est un espace fermé, enfin, sauf la nuit, à part.
Oui, on va en parler, mais ouais, j'ai vu un peu, effectivement, des remarques sur la sécurité de façon générale, parce que forcément plus de monde étant les prix en fait ils vendent, j'ai vu ça comme remarque, qu'ils vendaient trop d'entrées et que du coup on parlait du Hellfest pour comparer finalement en termes de jauge et de population sur un espace donné pendant une période donnée. Le Hellfest, ils ont une limite visiblement à la Gamescom, il n'y a pas de limite. Ils essayent justement de battre les records à chaque fois. Et malheureusement, ce serait peut-être bien qu'ils se limitent à une certaine quantité par rapport à tout simplement le flux, quoi, le flux de déplacement des gens, le temps également disponible pour passer sur les jeux. La présence d'influenceurs qui prenaient également de la place physique et puis de temps, de bruit, etc. Enfin, sur certaines choses, il y avait des queues de 4 heures sur certains jeux.
Ça me paraît fou d'attendre 4 heures
pour on l'avait vu, je sais plus, je crois que c'était pour Silksong la dernière fois
qu'il avait été présenté.
Ouais, voilà, il y avait des queues de malades aussi. Un gros problème apparemment aussi qui était revenu, c'était les problèmes de transport pour y aller. Ouais. Avec une offre de transport en commun qui est pas adaptée par rapport au lieu, alors que c'est tous les ans, ils le savent, je veux dire, ils savent qu'ils vont devoir brasser des centaines de milliers de personnes.
Est-ce qu'il y a un renforcement des transports publics ou?
Oui. Il y a un renforcement, mais visiblement, il est pas suffisant, et surtout, il est pas au bon moment dans la journée. C'est-à-dire le matin, le soir, pour le flux, quoi, pour le côté pendulaire. Bref, effectivement, on se posait la question, voilà, de l'expérience. J'ai vu des retours comme quoi, effectivement, l'expérience de l'utilisateur lambda, en fait, simplement, qui vient visiter, n'est pas forcément devient insupportable, mais en tout cas, elle se dégrade par plein d'éléments, que ce soit la quantité de population et finalement le manque d'adaptation à autant de monde. Et effectivement, je comprends que, par exemple, quelqu'un qui soit un minimum pas à l'aise dans un endroit bruyant pendant des heures...
C'est la fatigue, hein.
Ça fatigue très vite. Et puis même, que tu sois... moi, je suis pas spécialement claustro, mais je sais que dans certains moments, certains endroits, quand je sais que il me faut aller 10 minutes minimum de marche pour retrouver dans un endroit où il n'y a pas des gens dans un certain espace autour de toi, ça peut être source d'angoisse.
Ouais, ça je comprends. Et puis d'autant plus que c'est un événement qui est très attractif, hein, vu que bah, en gros t'avais tous les principaux acteurs de l'industrie, hein, qui ont répondu présent. Xbox était là de façon
Ils ont viré les gens qui devaient être là, c'est pas ça?
Alors non, là on parle des gens du marketing qu'ils ont pas encore viré.
Ah pardon.
Qu'ils ont pas encore viré.
Les gens importants.
Non. Non, ils sont à la prochaine charrette, t'inquiète. Donc en fait, des retours que j'ai eu, l'espace le plus imposant, c'était celui de Xbox. Mm-hmm. Nintendo était aussi là avec avec quelque chose d'assez important. Par contre, pour Sony, était beaucoup plus discret.
D'accord.
Sony a choisi d'avoir une approche différente par rapport à la Gamescom. Si on parle d'éditeurs, oui, d'éditeurs, on va dire classiques. On avait notamment beaucoup des Japonais qu'on connaît pas mal, que ce soit Sega, Capcom, Konami, qui s'est remis à faire des jeux vidéo il y a quelques années.
Ils se sont réveillés même. Ouais. Ils ont fait un Konami quelque chose.
Parce que plein d'années, Konami avait quasiment arrêté et vivait que sur ses acquis et sur des gachas.
Non, c'est plus le côté, ils ont fait vraiment, tu vois, une conférence cet après-midi.
Ouais, ouais.
Comme le State of Play de Sony, finalement, où, c'est comme ça. Tu dis, en fait, ils ont fait un truc un peu quand même en marge de la Gamescom.
En présentant. Mais là, ils étaient aussi sur place, en présentant des nouveaux jeux, etc. Bandai Namco, dont on connaît la présence en Europe, notamment, surtout à Lyon, en fait, on les connaît. Square Enix, d'un point de vue en tout cas japonais. Pour les gros occidentaux, Ubisoft était là, Electronic Arts et son nouveau propriétaire étaient là, ainsi que Warner Bros Games, ce qui est un peu plus étonnant vu que ils se promènent avec une pancarte qui veut bien m'acheter.
Oui, enfin qui veut bien me récupérer maintenant que ça, voilà, qu'on a été racheté par des gens qui veulent pas de nous.
Oui, voilà, parce que vu que alors pour ceux qui ne sauraient pas, le Warner dans son ensemble, donc les qui sont connus notamment pour des studios de cinéma mais qui font de la production audiovisuelle tout azimut, dont du jeu vidéo, a été mis en vente. Netflix avait prévu de le racheter, finalement c'est pas Netflix qui le rachète, mais c'est Paramount. Paramount n'est pas intéressé par la partie jeu vidéo, donc va bien falloir que Warner Bros Games soit récupéré par des gens, vu qu'ils pourront pas être gérés tout seuls.
Non, après la question c'est effectivement est-ce qu'ils vont finir par foutre tout ça dehors au bout d'un moment, comme quand ils en ont remarqué, comme Netflix fait avec ses studios d'ailleurs.
C'est ça.
Ou effectivement quelqu'un va ramasser
c'est,
ça.
C'est pas pour rien que Paramount on veut pas. Oui. Donc voilà. Du côté des éditeurs occidentaux, plutôt éditeurs, on va dire double A, dirons-nous. THQ Nordic était là. Il y avait aussi Focus Entertainment et Devolver. Mais surtout, on retrouvait énormément de noms venus de Corée et de Chine, parce que
beaucoup plus que d'habitude.
Côté Corée, c'était donc surtout NetEase.
NetEase, c'est pas chinois.
Pardon, n'importe quoi. Je dis NetEase, Krafton.
Oui.
Pardon.
Oui, en tant qu'éditeur sur pas mal de choses.
En tant qu'éditeur, il y avait beaucoup. Krafton était présent un peu partout, mais côté chinois, Tencent et surtout son label Level Infinite, qui est son label de jeux vidéo.
Et leur moteur.
Ils ont présenté leur moteur aussi. C'est ça.
Plein d'IA.
NetEase aussi présent dans à peu près dans beaucoup de jeux, notamment de ce qu'on a vu dans les conférences dont on parlera un petit peu plus tard. Mm-hmm. Et bien sûr, je pense ce qui était absolument inévitable, c'était MiYoYo.
Oui, ils ont été bien
MiYoYo avec l'Oyoverse, donc Genshin Impact et Rockstar Rail et tous les trucs qui vont avec.
Il y avait NCSoft aussi, qui était quelqu'un qui avait disparu un peu des radars et qui était là cette année. Très en forme, enfin avec deux.
C'est Guild Wars, c'est ça?
Oui, je crois.
C'est Guild Wars, ouais. Je crois, NCSoft. Ouais.
Et d'autres trucs aussi, mais d'autres MMORPG coréens, du coup, spécifiquement, enfin, pour une audience qui n'avaient pas forcément beaucoup pris en à l'extérieur. Mais oui, enfin voilà, ils avaient une présence. Et du coup, c'est vrai que ça avait été un peu surprenant entre guillemets, parce que c'était c'est un rendez-vous européen, mm-hmm. dans lequel on a l'habitude de voir des studios occidentaux, pas que européens, mais occidentaux de façon générale. Mm-hmm. Et là, il y avait effectivement une présence plus que d'habitude.
Oui, beaucoup plus que d'habitude.
Alors, il y avait une présence de façon générale, de, comme tu le disais tout à l'heure, de plus de studios tout court, de plus d'origines différentes aussi. On avait beaucoup de, on avait des studios d'Amérique du Sud, on avait un petit peu de partout. Voilà, c'était une édition un peu plus internationale, mais du coup, avec une grosse présence parce que beaucoup de moyens.
C'est vrai
et
que
du coup, une grosse présence, surtout aux gros événements, notamment à l'Opening Night Live, où ils ont été très visibles.
C'est vrai que historiquement, la Gamescom a toujours été considérée comme le salon des AA européens, en gros.
L'indé, AA, mais pas des grosses productions.
Et on va dire les grosses productions, c'était plutôt. On a annoncé les gros, c'était on a annoncé des trucs pendant le 3 ou le Summer Game Fest, et on vient montrer d'autres, on vient montrer un peu plus de ces productions là,
ou nos petites parties édition, tu sais, même Electronic Arts avait une partie un peu édition indé,
oui, avec Unravel et tout ça
par exemple, ouais. Okay. C'était plus cette, comme tu dis, historiquement là qu'on les retrouvait.
Oui, là,
ce genre de produit qu'on trouvait là.
Après, voilà. Alors, je ne m'intéresse pas spécifiquement aux gros AAA, donc je peux pas. J'ai pas de retour particulier. J'ai pas trouvé que c'était aussi grosse machine que pendant le Summer Game Fest, mais il y avait quand même pas mal de choses. On va dire que c'est. J'ai eu l'impression que plus que des nouveaux jeux, c'était des dates ou des fenêtres de sortie qui étaient annoncées plus que des découvertes de nouveaux jeux. Quoi.
Ouais, un
chez
peu
les gros,
plus que...
en tout cas.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Les grosses annonces, comme on disait, enfin, c'était vraiment des jeux chinois.
Oui, c'est ça.
Qui sont venus montrer leur, pour la première fois, ou alors vraiment éclater le truc avec des trailers de plusieurs minutes. Mm-hmm. Du coup, on parlait de moyens, parce que pour être présent pendant plusieurs minutes sur l'Opening Night Live, il faut un petit peu de moyens.
Oui.
D'après Geoff Keighley, il y a deux façons d'être présent, donc dans cette Opening Night Live, qui est vraiment la grande soirée, avec un plateau avec Geoff Keighley, donc l'animateur saltimbanque amateur de Doritos, qui présente quasiment tous les événements, comme que ce soit le Summer Game Fest ou les Game Awards.
Et avec un goût vestimentaire absolument foutu.
Ça, c'est un autre sujet. Mais effectivement, à chaque fois.
C'est une vérité.
Oui,
au bout d'un moment.
Mais c'est un vrai sujet tous les ans.
Il va falloir que quelqu'un lui dise, quoi. C'est pas possible.
Mais du coup.
Même le haut est mal taillé, tu sais. S'il paille que les couleurs, c'est que c'est mal taillé, les trucs des épaulettes.
Ok, Jean-Paul Gaultier.
Non, mais c'est pas possible, quoi. Je suis habillé comme un sac, mais viens avec un t-shirt, quoi. Moi, je suis habillé comme un sac, mais vas-y, viens avec un t-shirt.
Mais une cohérence ensemble.
Voilà.
Bon.
Pas possible, la merde.
Mais du coup, oui, cette grosse soirée qui est quand même l'événement, comme tu disais, avant l'ouverture au public. Mm-hmm. Il y a, je pense, beaucoup de journalistes. Je pense aussi que tu peux acheter ta place pour être présent ce soir-là. Enfin, c'est pas l'ouverture, la grande ouverture au grand public. C'est un événement un peu particulier dont ils vont faire. On a un petit peu de show, de mise en scène. Il y a eu un bout de concert. Il y a ce genre de choses en fait qui viennent un petit peu présenter. Voilà, tu passes une soirée après à voir des choses. Et pour être présent dans cette soirée, donc d'après Geoff, c'est un peu la même logique que pendant ces autres grosses soirées, que ce sont les Game Awards, qui sont les Oscars du jeu vidéo, ou le Summer Game Fest. Il y a deux solutions, d'après lui, en tout cas, c'est comme ça qu'il le présente depuis quelques temps maintenant, parce qu'on lui a posé la question plusieurs fois, pour apparaître dans cette soirée-là, ou alors ce sont des créneaux publicitaires, complètement assumé, c'est-à-dire qu'il y a des gens
tu payes pour être là, quoi.
Voilà, tu payes à la minute ou au temps de présence pour présenter ton produit, ou alors c'est un petit conseil interne de plusieurs personnes, sans préciser exactement comment, mais en tout cas c'est ce qu'ils précisent uniquement, qu'ils choisissent en fait des projets qui leur plaisent et à qui ils décident d'offrir la visibilité gratuitement. Oui. Durant ces soirées-là. L'inconvénient pendant cette soirée-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas réellement de mise en avant de qui a payé, de qui est là parce que l'équipe de l'Opening Night Live a choisi de les mettre en avant. On n'a pas vraiment de petits encarts,
c'est
de petites présentations, de précisions comme quoi eux, ils sont là, eux, ils vont nous éclater pendant 3 minutes avec un trailer de fou. Parce qu'ils ont payé pour. Ou alors ce petit truc un petit peu.
Ouais, je sais que avec la législation en France, ce serait pas possible. T'es obligé de dire soit c'est du public, soit c'est de la publicité, soit c'est de l'annoncer quelque part.
Je comprends.
Je sais pas ce qu'il en est parce que c'est une diffusion sur son propre canal. Que ça soit Twitch ou YouTube, demande pas de préciser.
Je sais pas à quel point c'est une obligation française ou européenne.
Je sais pas non plus.
Mais c'est vrai que ça pose la question fatalement de cette différence. Mais c'était une question qu'on avait déjà un petit peu abordée quand on parlait de la différence entre le Games Made in France ou le la GFRench Direct.
Oui, c'est on est obligé d'aller d'aller dans comment fonctionnent les événements pour savoir ce qu'il en est, sachant que moi, ce qui m'interroge le plus, c'est qu'il dit ça pour la Gamescom. Je vois pas pourquoi ce serait pas pareil pour les Game Awards et pour le Summer Game Fest.
Il dit que c'est pareil.
Ok.
Il l'a déjà dit, en fait, que parfois, il met en avant des trucs qu'on va payer parce que ça leur convient, ça leur plaît. Mais encore une fois, on le sait pas. On le sait parce que certaines personnes discutent, certaines personnes laissent entendre. Mais on n'a pas de communication officielle ni visible pendant l'événement.
Disons qu'il y a
certains créneaux sont de la publicité payée.
Disons qu'il y a des fois, en fait, quand Geoff, qui maintenant est le héros des indés, le héros avec AUT, hein, des indés, enfin autoproclamé évidemment.
Voilà.
Je pense que
les jeux indés qui ont réussi. Hein.
Oui, voilà.
Faut pas déconner.
Oui, c'est ça. Mais effectivement, déjà il y a de ça. Mais il me semble effectivement il y a certains jeux où tu les vois sur scène. Alors honnêtement, j'ai pas suivi ce opening night live là. Mais au Summer Game Fest, il y a des jeux où tu dis non mais ils ont pas les moyens. C'est pas possible, tu vois.
Il y a pas les moyens de payer une telle présence parce qu'on a des infos sur certaines soirées.
Ouais, voilà.
On sait que les Game Awards, c'est le plus gros, c'est le plus cher. Parce qu'on tape, je crois qu'on tape les 15 ou 20 millions.
Je serais très étonné qu'au Game Awards, ils disent, je vous aime bien, alors, voilà.
En tout cas, c'est ce qu'ils prétendaient encore l'année dernière.
Autant au Summer Game Fest, pourquoi pas, vu le line-up, entre guillemets. À les Gamescom, pourquoi pas.
Oui, aussi, oui.
Game Awards où à chaque fois c'est gros truc sur gros truc, je serais très très étonné quand même.
Mais pourtant c'est quand même ce qu'ils disent et on sait que comme je disais en fait les Game Awards c'est plusieurs dizaines de millions de spectateurs et du coup là la minute de temps de présence quoi, enfin ça n'a pas de prix en termes de communication quoi.
En tout cas là il annonce 70 millions de vues en ligne.
Prends ça dans la gueule, le trailer de GTA.
Après, il a pas donné la différence entre le nombre de gens en direct et le nombre de views en replay.
Oui, oui.
Voilà. Mais clairement, en tout cas, il y a une hausse par rapport à l'année dernière. Mais de toute façon, depuis que les événements à Geoff existent, c'est toujours une croissance. Hein.
Oui, alors on peut pas lui enlever ça, malheureusement, mais c'est pas quelqu'un qu'on porte dans notre cœur, mais on peut pas lui enlever ça, effectivement.
C'est devenu, ça gagne, qu'on le veuille ou pas, c'est un acteur incontournable de la communication du jeu vidéo, qu'on le veuille ou pas.
Hein. Et c'est un peu d'ailleurs ce qu'on lui reproche, hein, clairement. Mais c'est vrai que ça fonctionne en termes de chiffres, il arrive à brasser de la vue en masse.
Avant qu'on aborde très rapidement les autres conférences, je voulais juste reparler de ce qu'il y avait à l'intérieur sur place de Gamescom, parce que on parle des gros, mais il y a aussi une place importante qui est faite aux studios indépendants et aux jeux sur ordinateur. Donc on est obligé de citer l'Indie Arena Booth, cet espace donc qui rassemble les créations indépendantes venues de tous les pays, enfin là je crois que c'est 60 pays différents, et qui offre une visibilité à des équipes qui ont ni le budget ni les surfaces d'exposition des grands éditeurs, tout ça simplement. Et c'est souvent en fait c'est souvent là en fait que la Gamescom retrouve un peu l'ADN que je lui connais, c'est-à-dire le rôle de découverte, un peu loin du vacarme marketing des halls principaux. Et que là en fait pour moi cette diversité ça reste la grande force de la Gamescom. Une fois qu'on est passé devant toutes les productions à très gros budget, en fait, on arrive devant des stands indépendants bricolés avec trois écrans, quelques affiches, et avec des équipes qui connaissent les détails de leur création et avec qui on peut prendre le temps de discuter, hein, tout simplement. Enfin, c'est en tout cas moi, c'est ce que je recherche dans ce genre de salon. Et pour moi, c'était justement si j'ai envie d'aller à Gamescom, c'est justement parce qu'il y a ça.
Si c'est pour aller, contact direct.
Oui, si c'est pour jouer au dernier FIFA ou au prochain NHL, je m'en tape quoi.
Ah oui,
c'est pas pour moi. Quoi.
Forcément, tu sais, t'es pas bon à ce genre de jeu, donc forcément.
Je suis meilleur que toi à FIFA. Je te prends quand tu veux. Ah oui, bah j'allais partir sur le grand bal des conférences, mais on peut pas parler de l'Indy Boost Arena sans parler des affaires de vol.
Oui.
Rapidement.
Est-ce que ça s'est concentré là-bas?
Oui.
Parce que hier, apparemment, j'entendais dans l'émission de Canard PC qui l'évoquait aussi, qui évoquait ces événements. Et apparemment, il y a aussi du dégât chez MiYoYo.
Ok, donc, d'accord.
Mais je te les gros.
Écoute, je te laisse le présenter le truc si ça te va.
Alors techniquement, ça serait passé pendant la soirée du jeudi au vendredi. Donc à partir du moment où la fin de la journée, je crois que c'est 19h, un truc comme ça en fin de journée, que les portes ferment, qui prennent un grand balai et puis qui foutent tout le monde dehors de force. Et tous les jours, donc apparemment, donc entre le jeudi et le vendredi, au moment où tout était fermé, où les stands étaient désertés, il ne restait que la sécurité intérieure du truc, les devs, etc., étaient un peu partout ailleurs, auraient eu lieu des vols. Directement des vols sur les stands, sur les stands et dans les stands, c'est-à-dire que le matos n'était pas posé comme ça à disposition, il était rangé dans des caisses, il était rangé dans des placards, dans différentes, différentes façons. Et il y a eu des raids très clairement sur apparemment un certain nombre. J'ai vu, en tout cas en termes de témoignages annoncés, j'en ai vu une bonne dizaine minimum. Certains à qui on a volé plusieurs laptops. Donc comme je disais, je crois que c'était MiYoYo, mais en tout cas un gros éditeur chinois qui devait recevoir donc un journaliste de Canard PC qui au moment où il est arrivé, en fait, il leur expliquait qu'il lui avait volé carrément des tours. Des PC
quoi. Ouais.
On a eu aussi des stands sur lesquels ils étaient obligés d'afficher sur les stands que vous pouvez pas jouer à notre démo parce qu'on nous a volé notre clavier, notre souris. Donc oui, ça a été. Alors apparemment, il y a eu aussi un témoignage. J'ai oublié le nom du studio qui a déclaré donc que ça lui était arrivé il y a 2 ans.
Ah oui, ok.
Et qu'il y a 2 ans, la Gamescom lui avait dit ce serait bien que tu portes pas plainte parce que ça donnerait une mauvaise image à la Gamescom et à la ville de Cologne.
Ouais, le problème c'est que vu l'ampleur du truc là.
Alors c'était il y a 2 ans. L'année dernière, j'ai rien trouvé qui parlait de ça. Et effectivement, cette année, il y a eu clairement un raid. Enfin, il y a eu quelque chose. Et il y a, enfin, je veux dire, le public était pas là. Normalement, les devs aussi, enfin, les exposants, etc. Tout le monde était pas là. Enfin, je vois qu'un coup interne, qu'une faille dans la sécurité, effectivement, avec voilà. Ouais. Mais du coup, ça a eu un vrai impact sur certains devs, notamment indé. Notamment parce que, merci l'IA, le matos aujourd'hui coûte une blinde.
Un bras.
Et que du coup, perdre un ordinateur portable capable de faire tourner des builds de jeux qui vont être bientôt vendus, bah voilà, t'as quand même envie de le montrer sur des bonnes
conditions. Sachant que un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que les fameuses démos qui sont sur ces PC là, ce sont en fait des versions de jeux qui sont pas encore optimisées, donc ils vont demander plus de puissance.
T'as envie de les faire tourner dans les bonnes conditions, donc
voilà.
T'essayes d'avoir du matos de qualité. Et du coup, donc c'est du matos cher, difficile à remplacer, et avec un détail pas négligeable non plus, c'est que il y a du matos. Il y a un côté un peu perte de données. Pas d'espionnage industriel, mais tu vois, tu perds quand même des builds qui se retrouvent dans la nature. Est-ce qu'ils vont pas se retrouver sur les sites de pirates? Est-ce que tu vois qu'est-ce qui va se passer avec le matos, finalement les logiciels eux-mêmes, le travail que ces devs ont fait? Ils ont sans doute des backups, hein, c'est pas le problème, mais ça fait des builds qui étaient pas censés être se retrouver dans la nature, qui vont peut-être circuler à droite à gauche.
Ouais.
Ça fait aussi partie des conséquences
ouais.
de ça. Et c'est vrai que la réponse officielle de la Gamescom est discutée.
Oui, qui était, vous aviez la possibilité d'avoir plus de sécu personnel.
En fait, la première réflexion, c'est, normalement, vous venez sur ce genre d'événement, on vous prévient que il vous faut une assurance pour votre matos, on vous prévient qu'il y aura un peu de sécurité pour le lieu, mais que vous avez la possibilité de prendre de la sécurité personnelle en plus. C'est un peu se dédouaner malheureusement de ça quoi.
Ouais,
ça a été mal vécu par ceux, encore une fois, surtout par les indés, parce que bon, quand t'es MiYoYo, t'en fous de perdre une boîte,
ouais.
Mais quand t'es un petit indé, ça peut être beaucoup. Alors il y a eu un peu de, il y a eu une vague de solidarité. On sait que c'est des projets, par exemple, là, envoyer du matos à certains devs qui avaient perdu des trucs. Je sais plus le nom exact, mais en gros, c'est une sorte de confédération de développeurs espagnols
ouais.
qui ont aussi rassemblé du matos pour certains.
Oui,
je
sais qu'il y a eu un truc au niveau d'un IM 8-bit aussi.
Oui, aussi. Ouais, il y a eu un petit peu de solidarité. Il y a des choses ouais. comme ça qui ont pu être faites, mais souvent trop tard aussi, parce ouais, que encore une fois, le créneau il est extrêmement court.
En gros, le truc, c'est que tu t'aperçois vendredi.
Vendredi. Matin,
Au mieux, t'as le matos quoi, samedi, dimanche. Dimanche peut-être.
Au pire, et encore une, et t'as payé ton stand.
Ouais.
T'as payé ton stand
c'est
avec
3500 balles. C'est 3500 balles jour. Hein, c'est...
Plus le trajet, plus le voyage, ouais, enfin le logement. C'est un investissement compliqué quoi. On en parlait avec Bettina dimanche. Mais effectivement, comment est-ce que tu prépares ça quand tu es un organisateur? Comment tu assumes? Comment tu anticipes? Et je comprends que ce soit pas facile, mais ce qui est plus problématique, c'est quand sortent des histoires qui se seraient passées déjà les années passées, sans qu'il y ait finalement de leçons de tirer, ouais. Et de, enfin là, d'efforts de fait quoi.
En tout cas, c'est une affaire qui, en tout cas, entache la Gamescom, non pas tant pour le public, mais surtout pour les éditeurs, les développeurs, les exposants, les annonceurs qui se disent est-ce que c'est l'endroit où il faut être si en termes de sécu en plus, en termes d'investissement, on est obligé de rajouter de la sécu en plus quoi.
C'est sûr que ça va peut-être leur faire poser la question de la prochaine fois est-ce qu'on vient, tu vois, enfin est-ce qu'on vient dans les mêmes conditions,
tout simplement.
Qu'est-ce qu'on fait quoi.
Je serais pas étonné que Miyoyo ils disent vous êtes bien gentil malgré le fait qu'ils soient blindés de thunes, mais
oui, c'est pas le problème.
Est-ce que ça vaut le coup en fait de venir si c'est pour se faire du matos? C'est que lorsque on se plaint à la direction, ils nous crachent à la gueule. Tu vois. Donc, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, mais ils sont retranchés derrière le contrat en fait.
On est bien d'accord. Mais là, je parle plus du sentiment des
exposants. Oui, bien sûr.
Voilà.
Mais c'est vrai que en fait, faudrait faire un petit tour de ces grands événements, que ce soit les PAX, que ce soit les autres Gamescom. Il y en a dans différentes parties du monde. Il y a la GDC qui est la Game Developer Conference, qui avait connu il y a un an et demi, parce que c'est en début d'année.
Ouais, des affaires de vol aussi. Ouais.
Alors des affaires de vol, mais surtout des affaires de boissons trafiquées, avec des femmes qui avaient été ciblées.
Ouais.
Des boissons, à des soirées comme ça, puis d'un coup elles buvaient tranquillement un verre et d'un coup évidemment perte de connaissance, tout ce qu'on peut imaginer quand on se fait droguer sa boisson, dans un espace qui est censé être sécur, avec des amis développeurs. Ça avait fait
la grande famille.
Ça avait fait du mal. Ça avait fait du mal à l'ambiance, hein, fatalement. Je veux dire, c'est
la grande famille. Ouais.
Mais
forcément,
du coup, bon, voilà, c'est l'univers, la grande famille du jeu vidéo. Des fois, c'est pas pour dire que tout le monde est pourri, mais c'est que malgré tout, des endroits comme ça qui rassemblent beaucoup de monde, qui vient d'un peu partout, il y a des gens bien intentionnés. Et puis, c'est pas étonnant, de constater ça quand on voit comment ça se passe dans certains studios. On avait eu l'exemple chez Ubi, on a eu l'exemple chez Quantic Dream, rien qu'en France, avec des personnes qui ont des comportements toxiques, du harcèlement sexuel et tout ce que tu veux.
Et pour revenir à la Gamescom, là on a parlé de la partie sur place. Évidemment, celle à laquelle nous on a accès, ce sont les conférences. On a parlé de l'Open Night Live. Très rapidement, avant qu'on commence à parler de jeux vidéo, ce serait quand même bien sympa. On a suivi les deux versions de les Future Game Show. Oui. Le Future Game Show qui a eu lieu le 26 août et puis le grand récap qui a eu le dimanche où vous y étiez. Moi, j'y étais pas, mais ouais, ça avait l'air nul.
C'était pas ouf. Et c'était vachement mieux.
Future Game Show, c'était pas mal.
Non, le Future Game Show était cool.
C'était pas mal. Un show que j'ai trouvé intéressant, c'était le Awesome Indie Show.
Mercredi soir également.
Après le
Future Game Show.
C'est ça. Qui mettait en avant surtout les productions indépendantes. Et puis, alors, un truc que tu n'as pas suivi, mais que, comme d'habitude, la Gamescom a remis les Gamescom Awards.
Alors, j'en ai vu ça aussi. j'ai vu les résultats. Oui.
Voilà. Dont les fonctions restent limpides. Satisfaire les professionnels, flatter les éditeurs et donner au public l'impression qu'un verdict définitif peut être rendu sur un des jeux qui ne sont pas encore terminés, ou même des fois même pas sortis, des fois même pas joués. Voilà, donc honnêtement, le résultat, je les ai pas regardés et j'en ai rien à foutre.
Non, l'intérêt était quand même assez limité.
Mais toujours ce côté mettre des awards un peu partout, voilà.
Il y a eu d'autres petites conférences, il y a eu IGN qui avait une présence sur place, qui a fait deux trois petites choses, qui a fait un petit truc tous les jours.
Alors sache que l'Indie Awesome Indie Show, c'est IGN qui le fait.
C'est IGN aussi qui l'organisait, en effet. Il y a eu aussi Xbox qui a fait des trucs deux jours de suite.
J'ai volontairement pas parlé.
Pareil. Et puis, j'ai pas regardé non plus. Mais il y avait également. Alors ça, c'est un événement que j'ai pas retrouvé en ligne, mais c'est une page Steam dédiée à ça qui s'appelle le Find Your Next Game, qui était en fait pareil aussi de la mise en avant d'un certain nombre de jeux très indés aussi, mais qui étaient pas exactement les mêmes jeux que dans le Awesome Indie. C'était un poil le bordel sur les trucs, parce que si tu veux retrouver en fait ce qui a été montré, etc. Un truc efficace, ça reste la page Steam, parce que du coup elle récap, tu peux retrouver tous les jeux qui étaient présents et qui sont dispo sur Steam évidemment, ce qui n'était pas le cas de tous les jeux. Mais
c'est vrai que t'as un côté toujours beaucoup plus carré dans l'organisation des et la répartition des conférences lors du Summer Game Fest que lors de la Gamescom. Je vais être clair, j'ai jamais suivi la Gamescom pour les conférences en vrai, parce que c'est presque un truc relativement nouveau.
Historiquement, l'Opening Night Live, c'est pas si vieux.
Oui.
Déjà, et avant il y avait que l'Opening Night Live.
Voilà.
Il y avait rien d'autre. Le Future Game Show, c'est
donc c'est en train de s'organiser petit à petit, mais c'est vrai que la plupart des gens, enfin. Les gens qui dont le métier est de communiquer sur le jeu vidéo de manière générale concentrent leurs efforts sur début juin.
C'est ça. Et puis du coup la Gamescom, c'était aussi beaucoup pour les pros de rencontrer des gens directement, pour certains
rencontrer des éditeurs.
Ouais, c'est ça. Certains essayer de caler des deals, voilà, des deals d'édition pour montrer un peu ce qu'ils avaient.
Une partie pro qui est non négligeable.
Tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que le public ne peut accéder au lieu que à partir du jeudi.
C'est ça. On a 20 minutes pour parler de jeux vidéo.
On a parlé de ce qu'on aime, l'industrie du jeu vidéo, avec tout ce qu'elle a de beau et de divers.
Oui. Non, parce que dans tout ce paysage-là, même si à titre personnel j'ai fait relativement peu de découvertes, il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont tapé dans l'œil.
Okay.
Tu veux commencer ou quelque chose?
Ok.
Eh ben, à ta surprise absolument nulle, je vais parler d'un jeu qui s'appelle Matlot. Voilà, oui. Matlot, donc qui est c'est un jeu de rôle en fait. C'est un jeu d'aventure en même temps, un jeu de rôle en même temps, un rogue aussi.
Ah.
En même temps, un côté rogue, parce que il n'est pas prévu que tu gagnes dès la première fois.
D'accord.
En tout cas, le principe, c'est pourquoi en fait j'en parle et il m'a tapé dans l'œil. L'humour décalé qui avait l'air d'être montré sur le trailer. Les graphismes qui ont l'air tout mignons, tout dessinés, l'ambiance très sympathique, et puis le fait que ce soit développé par la Poule Noire. Édité par Arte. La Poule Noire, pour si vous ne connaissez pas, ce sont des gens qui ont fait notamment Bok Bok. Ils ont fait.
Bok Bok à Boulzac.
Ouais, c'est ça. Edgar Bok Bok à Boulzac.
Ouais, c'est ça.
Et ils ont fait aussi.
To Hell with the Ugly.
To Hell with the Ugly. Donc, et on tuera tous les affreux. Adaptation du livre Et on tuera tous les affreux de Vian. Qui est un point and click excellent. Excellent, vraiment.
De 2022,
2023. Ouais, 2022, je dirais à peu près. Dernièrement, ils ont sorti en co-développement Looking for Fael.
Oui. Il y a un mois.
Voilà, il y a vraiment pas longtemps. Et lorsqu'il est sorti Looking for Fael, ils disaient qu'ils étaient sur un nouveau projet qui est sortir bientôt. Et ce nouveau projet, c'est donc Matelot. Le point de départ, en fait, c'est assez original vu qu'on est au royaume de Sozik et il faut que la poule royale a disparu.
Et ça, c'est pas tolérable.
Ça, c'est un drame. Donc, le pays sombre dans le chaos.
Et donc la poule.
Le truc de la synopsis de base. Mais enfin, même quand tu en fais la démo, c'est le truc est dans le chaos et c'est vraiment en plus c'est tout le monde dit que en fait tu peux pas prendre de bonnes décisions dans le pays si t'as pas la poule royale quoi. Si la poule royale n'est pas présente quoi. Donc
oui, c'est la poule qui prend les décisions quoi.
Ouais, voilà.
Bizarrement la poule elle est noire.
Oui.
Est-ce qu'il y a un lien avec le. Pardon.
Je sais pas, le royaume de Sozik, c'est peut-être Saint-Denis, j'en sais rien. Mais le pays sombre dans le désordre, voilà, et le joueur doit prendre la mer avec un équipage de matelotes, parce qu'on n'a que des personnages féminins,
okay.
Qui sont moyennement qualifiés pour le métier, dirons-nous. Et donc, il faut et en fait, on en a trois de base. Et en fait, pendant le voyage, on pourra en recruter, les entraîner, des fois gérer leur penchant. Ça a des penchants. Par exemple, on a une matelote qui est ultra bourrine. On a une matelote qui veut suranalyser tout. Et des fois, en fait, ça va t'empêcher de faire certains trucs, te permettre de faire certains trucs de façon épique ou de façon beaucoup trop bourrine ou voilà. Et donc, c'est ça le côté aussi RPG. Et en gros, il faudra gérer tes matelotes selon leurs capacités pour pouvoir avancer, quoi. Et donc, il faudra explorer les îles et puis tenter de tirer au clair cette crise qui bouleverse le royaume. Donc, en fait, le côté roguelite, c'est que à chaque nouvelle partie, les îles, les mers et les rencontres sont gérées différemment. Tu as aussi des factions rivales qui ne sont pas les mêmes à chaque fois.
D'accord.
Moi j'aime toutes les mécaniques. Le fait que ce soit extrêmement drôle de base, le fait que les mécaniques sont bien fun, que à chaque fois que tu fasses un truc, tu balances un saut de dés, c'est très rigolo.
Oui. J'ai vu les images où tu envoies des dizaines de dés.
Ouais, tu balances un saut de dés, c'est assez rigolo, mais les tests sont quand même assez élevés des fois, donc faut bien gérer le truc. Les différents choix d'équipage font que, je pense aussi le côté roguelite fait qu'au début, en fait, t'as cinq choix différents. Peut-être que tu pourras, aussi le fait que quand tu recrutes quelqu'un, il va s'ajouter à ton, entre guillemets, roster de départ où tu pourras prendre cette matelote-là. D'accord. Pour commencer, quoi. Donc, Matelot, ça sortira, ça sera attendu en accès anticipé début 2027. Donc, okay. le jeu sort vraiment pas tout de suite. Ce que j'ai trouvé de la démo était fort solide.
Ok, parce qu'ils ont fait le choix de proposer une démo en même temps qu'ils proposent ont annoncé le jeu.
La démo était très solide. Peut-être deux, trois trucs en termes de lisibilité, d'interface. Où mon background d'expert en accessibilité dit que, dis donc, il y a des trucs peut-être à améliorer, mais globalement on s'amuse bien, on se marre bien, à refaire. À revoir, quoi. Vraiment, je suis dans le train.
Ok, cool. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de faire la démo, mais il faut.
Bah,
je le fasse, surtout que
moi j'ai préparé l'émission, je sais pas pour toi, mais
non. Bah depuis tout à l'heure, j'invente tout ce que je dis.
Mais évidemment.
Ça se saurait. Si
et je te reprends pas parce que, une fois de plus, j'aime beaucoup Geoff Keighley.
Ah là là. Mais ok, très bien. Donc tu t'attaques direct avec du français.
Oui.
Très bien.
Honnêtement, je pense que c'est le meilleur jeu de ceux que j'ai sélectionnés qui sont sortis, enfin, dont j'ai appris l'existence pendant cette période-là. Okay. C'est celui qui m'intéresse le plus.
Et ben, du coup, moi qui fais mes émissions uniquement justement en parlant des jeux dont je viens d'apprendre l'existence, je vais faire l'inverse ici. Et je vais vous parler de Glasshouse. Glasshouse, je le suis depuis bien un an et demi, puisque j'avais fait un playtest à l'époque. Glasshouse, c'est un jeu de rôle féodal punk, comme ils le disent, qui se passe dans un immeuble en confinement à l'aube d'une guerre mondiale. Donc on est vraiment dans une situation particulièrement tendue, et pas particulièrement joyeuse non plus. Il y a un triple meurtre, il y a énormément de politique, parce qu'en fait là, tu vas définir clairement l'orientation politique de ton personnage suivant pas mal de nuances. Et ça va évidemment impacter tes relations avec les gens, parce que c'est un de ces RPG très très orienté vers la discussion, les relations, comment est-ce que tu vas résoudre finalement les situations, les conflits, les dialogues, les interactions tout simplement avec les autres. Donc évidemment très très, enfin il y a beaucoup beaucoup d'inspiration Disco Elysium et elles sont complètement assumées, avec rien que la fiche de personnage qui est encore une fois plus proche de comportement, d'attitude et de conviction politique, bien plus que de force, dextérité, intelligence comme dans un jeu de rôle. Alors, et ça a quand même un peu d'impact, mais on est quand même plus là-dessus.
On se rapproche d'un système à la Disco Elysium.
Ouais,
en fait,
c'est ça. Aussi là-dessus, même s'il y a.
C'est pas le même, hein, mais en tout cas dans l'intention, que ce soit plus dans la discussion, dans les intentions, etc.
Ouais, et en fait, tu vas gagner des combats de parole, entre guillemets. Il y a quand même des événements, on va dire, de confrontation en tour par tour, plus proche, par exemple, d'un Final Fantasy en termes vraiment de c'est mon tour, c'est ton tour, tu agis les uns après les autres. Et mais quand même basé beaucoup là-dessus, il se présente donc comme une expérience de jeu de rôle narrative. Tout en précisant le intense. L'ambiance est plutôt réussie. Bah encore une fois très très sombre, très voilà, dans une sorte de dystopie pas particulièrement joyeuse, avec des gens qui ont une lutte des classes interne dans cet immeuble, conspiration politique. Il y a pas mal de choses et donc le principe c'est de remettre en cause justement la foi idéologique des différents interlocuteurs. Donc c'est assez intéressant. C'est en tout cas très ambitieux. Comme approche. Le Disco Elysium like, justement, ce côté, on va te raconter une histoire avec quand même un minimum de création de personnages, en tout cas de rôle, de prise de contrôle sur l'histoire, et pas simplement comme dans un jeu d'aventure, où tu ne fais que suivre ce qui va se passer.
Il y a aussi une présentation différente de la plupart des Disco Elysium like, on va dire, avec le côté, tu sais, la plupart des Disco Elysium, je trouve, est relativement sage par rapport à l'exemple de base qui est, on va te mettre un tiers de ton écran où ça va être du texte, et puis le reste, ça va être ton aire de jeu, quoi. Mm-hmm. Là, j'ai l'impression que Glassos propose quelque chose de différent.
Ouais. En tout cas, c'est le souvenir que j'avais un peu de la démo. J'avais légèrement discuté avec les devs au moment de la démo, ou en tout cas du playtest. Je sais plus si c'était une démo ou un playtest, mais c'est plus disponible aujourd'hui. Et donc voilà, tu vas quand même tourner autour de ta boussole politique et de celle de tes différents interlocuteurs. Et ça, rien que ça, c'est intéressant, je trouve, comme approche, comme volonté. C'est le premier projet d'un studio italien qui s'appelle Flat 28, c'est ça ? Flat 28. À suivre, donc, même visuellement, je trouve ça plutôt sympa, sans être révolutionnaire. Je pense que c'est pareil, ils sont pas non plus allés. Les moyens n'ont pas été forcément mis dans l'apparence du jeu. Ils ont fait quelque chose de propre, mais de peut-être un peu déjà vu aussi, un petit peu inspiré de ce qu'on a pu déjà voir comme dans Disco Elysium ou même Sovereign Syndicate, tout ce genre de jeu.
Oui.
Mais en soi, ça me pose pas de soucis si le cœur de l'expérience est aussi réussi qu'il est ambitieux.
Ok. Non, mais effectivement, le jeu a l'air intéressant. Je sais que moi, je trouvais quand même assez austère d'un point de vue visuel, ce qui fait qu'il y a ça, il m'attirait un petit peu moins, mais je pense que la mécanique est vraiment très, très, très intéressante. Donc, à voir. On sait quand il sort.
Non, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas d'information qui a circulé là-dessus. Mais voilà, là, encore une fois, il est visible depuis deux bonnes années, parce qu'il était une version démo qui était aussi dispo sur itch.io. que j'ai retrouvé à l'époque, et c'est la première fois qu'il le présente officiellement dans un salon de cette envergure.
Ok.
Donc peut-être que ça veut dire qu'il se sent suffisamment prêt aussi pour l'avoir montré à des gens et à des journalistes. Donc j'attends aussi d'en savoir plus.
Ok, ça marche. Et ben moi je vais parler d'un jeu qui m'a mis un truc un peu nostalgique, et que je pensais pas que c'était nostalgique déjà. C'est un jeu qui s'appelle Warhammer Age of Sigmar Deathmaster.
Toi, t'as voulu rester dans le local.
Parce que oui.
Est-ce que t'aurais pas l'intention de les faire venir dans le local d'ailleurs ?
Honnêtement, moi j'aimerais bien parler avec les gens de Old School Games, donc le studio français, sachant que c'est un jeu édité par Dotemu aussi. C'est du Warhammer. Je n'y connais rien du tout en Warhammer. Je ne m'intéresse pas du tout au Warhammer, mais quand j'ai vu le jeu, j'ai fait Mark of the Ninja.
Oh ! Et il y a une raison. Le créateur de Mark of the Ninja a consulté, en tout cas.
D'accord. Il est parti de chez Clay, alors.
J'ai su qu'il y a eu communication, en tout cas.
Après, le truc, c'est qu'il faut savoir que... Alors, pour parler rapidement de Mark of the Ninja, Mark of the Ninja, c'est un jeu de Clay Entertainment qui est sorti en 2012-2013, un truc
comme
ça.
C'est un des premiers jeux de la vague indé.
Ouais, voilà. C'est un... Pour moi, peut-être le meilleur jeu d'infiltration auquel j'ai jamais joué. En 2D. D'autant plus impressionnant que c'est un jeu d'infiltration en 2D. Souvent, les jeux d'infiltration en 2D, on se dit que, il manque une dimension pour pour que ce soit vraiment intéressant. Celui-là avait vraiment des vraies possibilités et une vraie joie en fait à y jouer de différentes manières, hein, parce que tu pouvais aussi bien en fait au final y jouer vraiment pas à pas en essayant de tuer chacune personne, ou essayer de traverser le truc le plus rapidement possible en jaugeant tes timings, etc. Soit en te faisant pas repérer, soit en tuant personne, soit en tuant une ou deux personnes juste qui sont sur ton chemin, etc.
Il était libre aussi dans la façon de gérer
était extrêmement beau aussi en termes d'animation, comme les jeux clés de cette époque-là. En tout cas, il faut savoir que le clé de 2012 et le clé de maintenant n'ont pas grand-chose à voir. Un, parce qu'il y a eu un rachat de la part de... Je sais plus qui. C'est Tencent qui a racheté clé, je crois. Hein.
Je saurais pas confirmer. Ça m'étonnerait pas, mais je sais pas.
Je vérifierai après, mais il me semble que oui, Clay s'est fait racheter par je sais pas qui. Je regarde Tencent.
D'accord.
Clay s'est fait racheter par Tencent en 2021, et du coup, c'est vrai que si tu me dis que il y a eu qu'ils ont été consultés par le créateur de Marco Ninja, je suis pas si étonné, parce que je pense qu'il y a eu du force, enfin, il y a un turnover assez impressionnant dans toutes les boîtes.
Après, je serais pas étonné que même quelqu'un qui bosse dans un studio aille jeter un œil, discuter ailleurs, sans forcément être parti d'un studio, mais
bien sûr.
Ça a rien à voir.
Et même aussi, il peut très bien que la personne qui était responsable du gameplay ou du game design du jeu à l'époque soit déjà un extérieur ou un consultant indépendant. C'est très très possible. Ça arrive même assez souvent.
Mais du coup, il y a visiblement des liens.
Oh oui, parce que honnêtement, quand tu vois le trailer, le jeu, enfin, si tu as déjà joué ou vu Marco the Ninja, le jeu te hurle: bonjour, je suis Marco the Ninja 2, et avec des Skaven à la place des ninjas.
C'est d'ailleurs apparemment un élément intéressant, parce que c'est rare qu'on joue les Skaven, parce qu'ils sont souvent dans l'univers de Warhammer, les ennemis de base, ouais, c'est des rats, hein, clairement. Mmh. C'est de la vermine, et c'est souvent l'ennemi de base, oui. Voilà.
Oui, c'est ça. Et puis même dans le côté Warhammer, le fait de pas incarner une armée ou une race, que ça soit comme les Blood Bowl ou les jeux Warhammer où tu vas juste défoncer plein de trucs, etc. Mmh. Là, en fait, on incarne Vinik, donc il y a un assassin Skaven, donc les hommes rats de l'univers de Warhammer, et il a été jeté dans une fosse commune, et il doit survivre dans les profondeurs du sous-empire, et qui est un monde souterrain dangereux, gangréné par les pièges, les rivalités internes, et le but, ce sera de progresser dans la hiérarchie Skaven grâce à la furtivité, aux embuscades et aux exécutions brutales dans le noir. Bref, faire des trucs d'assassin. Et quand je dis des trucs d'assassin, je dis pas de sauter du haut d'une cathédrale pour arriver dans une botte de foin.
Écoute, moi j'avais une histoire de mec chauve avec un code barre. Chacun ses assassins.
Mais oui, en fait, le truc, forcément, enfin, moi, je veux, pour faire très court, oui, j'adorais Marco Ninja. Et le truc qui m'a le plus frustré, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de successeur à ce jeu-là, même d'un point de vue, pas genre un jeu qui voudrait être ou inspiré d'eux, il y a vraiment. C'est un jeu en plus qui a eu quand même une sacrée cote quand il était sorti. Tous ceux qui, enfin, moi, je connais personne qui a joué et qui a dit, oh, il m'est lâché des mains, parce que le jeu était vraiment, vraiment bien. Je suis surtout que celui-là arrive à conserver cette sorte de fluidité qu'il y avait dans le Marco Ninja, qui était déjà assez impressionnante.
T'as pu mettre les mains dessus?
Non, okay, parce qu'il
y a pas de démo, il me semble.
J'ai pas vu de démo. Le jeu est attendu pour 2027. Okay. Il y a pas de date précise.
Okay, donc il faut qu'on aille.
Faut qu'on aille toquer à la porte de Skull Games.
Ah, chacun sa méthode. Mais
oui, voilà.
J'ai kidnappé. Mais c'est fin.
Non, mais il y a pas de souci. De toute façon, on a un indique.
Déjà et. Petite voix m'aurait dit que
oui.
Avait des contacts déjà.
Oui, qu'il y avait des contacts pour un certain événement un peu plus tard
dans
l'année.
On en aura parlé.
Voilà. Donc voilà, effectivement, c'est vrai que je serais assez
intéressé, effectivement.
Très intéressé, ouais.
Du coup, vu le temps qui nous reste, je vais parler d'un autre jeu. Je vais rester en France. On va changer un peu de région. On va remonter en région parisienne avec Humankind 2.
D'accord.
D'Amplitude.
Oui. Amplitude Paris, ouais.
Amplitude Studio tout court, parce qu'ils sont que là-bas d'ailleurs.
Ah, je pensais qu'ils en avaient plusieurs.
Non, pas que je sache.
Mais je me plante peut-être.
Mais du coup, Humankind, qu'est-ce que c'est? Et Amplitude, en fait, moi je les connais surtout parce qu'ils ont commencé avec les Endless Space, en tout cas c'est ceux-là avec lesquels je les ai connus, notamment Endless Space 2, qui était une un gros coup de cœur pour moi. J'ai passé vraiment vraiment énormément de temps sur ce jeu de... C'est un 4X, c'est-à-dire que c'est un jeu où on construit notre civilisation, notre univers, on se développe, on fait de la recherche technologique et on s'étend. Et des fois en s'asseyant sur ceux qui étaient déjà là. Donc en gros, il y a également du combat, il y a également voilà de la confrontation, de la diplomatie également. Et Amplitude donc savait déjà faire ce genre de jeu. Et ils ont ensuite passé sur ils étaient dans l'espace avec des vaisseaux, avec des planètes. Ils se sont rapprochés finalement d'une seule planète quand ils ont fait Endless Legend en 2017-2016. Je sais plus exactement quelle date, mais il y a un petit moment maintenant.
Ils n'avaient pas fait un peu de l'Heroic Fantasy aussi?
En fait, ils avaient fait Dungeon of the Endless. En fait, c'est devenu Endless Dungeon ensuite, parce qu'ils voulaient faire une cohérence avec les noms. Mais à la base, c'était Dungeon of the Endless et c'était effectivement plutôt un jeu coop où on devait survivre entre potes. Mais c'était pas vraiment Heroic Fantasy.
Ça ressemblait. Ah, okay.
C'était un peu SF.
Parce que dans ma tête, c'était un Gauntlet.
C'est un peu cet esprit, ouais. Mais sans forcément un contrôle précis des bonhommes. Enfin bref, c'était un système différent. Mais du coup, voilà, ils se sont amusés donc à faire leur jeu de civilisation. Sur une planète avec leur civilisation Heroic Fantasy pour le coup, à eux quoi, leur propre univers, l'univers Endless qu'ils ont. Ensuite ils se sont dit mais on a fait un jeu qui ressemble quand même pas mal à la civilisation, est-ce qu'on ferait pas notre civilisation tout court en fait? Et c'était Humankind 1, avec comme dans les civilisations créées par Sid Meier il y a maintenant plus de 20-30 ans.
Je dirais même plus.
J'aurais dit 89, 90, j'ai plus.
Bah du coup 40.
Ouais, bah non, 89.
Ouais, ouais, mais bon, ça fait plus 35.
Mais non. Il y a 10 ans, on était en 2005, voyons. Du coup, ouais, donc ils se sont lancés dans Humankind, qui était leur proposition de civilisation-like. Des qualités, des défauts, des bonnes idées, des trucs qui ont moins bien marché, en tout cas dans le premier. Entre temps, ils ont sorti Endless Legend 2, qui est sorti l'année dernière et qui va sortir d'Early Access dans un mois ou deux. Je crois que c'est fin septembre ou fin octobre. Et grosse réussite, par contre, celui-ci. Et je pense qu'ils ont eu envie d'aller au bout, en fait, de leur projet Humankind. Et c'est pour ça qu'ils se lancent dans un 2, qui pour l'instant va ressembler quand même vachement à Humankind 1. Les mécaniques, on n'en a pas encore beaucoup, beaucoup d'infos. On sait qu'on va rester sur cette logique de... On choisit d'abord une première époque, et ensuite on fait évoluer notre civilisation vers un autre âge. On passe de l'Antiquité à côté un peu médiéval, ensuite Renaissance, etc. Enfin, cette évolution que l'humanité a connue, avec leur propre direction, enfin des directions différentes qu'on peut prendre. Donc ils vont rester là-dessus, en tout cas de ce qu'on a vu des images. Et alors celui-ci apparemment serait auto-édité. Ce serait le premier jeu qu'ils auto-éditent depuis un moment, parce qu'avant ils appartenaient à Sega, qui les avait rachetés il y a plus de 15 ans, je pense. Et ils sont sortis du giron de Sega l'année dernière. Et Endless Legend 2 étant le premier jeu qui sortait hors giron Sega,
oui,
avec l'aide de Wooded Horse, qui est un éditeur de jeux de stratégie une très très bonne qualité. C'est souvent une valeur sûre, en tout cas pour l'instant. Wooded Horse ne m'a jamais déçu.
C'est Manorlord, c'est chez eux aussi.
Manorlord, c'est chez eux. Il y a beaucoup de trucs chez eux, vraiment beaucoup beaucoup de trucs.
Je dis ça parce que je m'y connais beaucoup moins que toi, mais celui-là c'est le plus, enfin j'en ai
ah, clairement, oui,
ça a été un phénomène.
Ils viennent de passer les 4 millions de ventes pour un petit jeu de gestion comme ça, c'est quand même énorme. Mais du coup, oui, c'est leur première proposition, cette fois-ci en solo. Est-ce qu'ils vont retrouver de l'aide du côté de Woody Lors, ce qui serait pas déconnant vu le genre de jeu? Est-ce qu'ils vont y aller en solo jusqu'au bout? Bonne question, mais c'est un peu tôt pour en dire beaucoup de choses, parce qu'on a vraiment vu les premières images mardi. Et d'ailleurs, les premières images ont fait parler, puisque le trailer étant tourné avec des vrais acteurs, avec une caméra qui avait un peu cet effet Fish Eye, comme on dit, qui vient un petit peu modifier le décor derrière.
Et cet éclairage un peu bizarre qui fait, tu sais, éclairage en direct qui fait un peu plastique en fait, qui rend un peu la peau un peu plastique et tout ça.
C'est
vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont crié à l'IA.
À l'IA, notamment pour les décors, pas forcément pour les visages, mais vraiment pour cette ambiance.
Pour les visages, des fois, c'était
un peu aussi, c'était limite. Ouais. Mais du coup, voilà, ils se sont défendus de ça. Ils ont dit qu'ils allaient montrer comment est-ce qu'ils ont tourné ces scènes avec des vrais acteurs dans des vrais décors. Mais voilà, un petit peu dans les conditions dans lesquelles on en a parlé.
Ben écoute, un jeu italien, trois jeux français, moi je trouve que
enfin bon,
on est finalement très traditionnel sur la Gamescom. Hein.
Exactement. On aurait pu aller dans plein de directions, mais on n'avait qu'une heure.
Oui, bien sûr. J'ai failli parler de Chronoscript, qui est un Metroidvania japonais.
Non,
mais j'ai pas le temps. Est-ce que il y a déjà littéralement on toque à la porte.
Exactement.
Mais
c'était cool comme émission de reprise.
Ouais, c'était bien et puis ça nous a pas empêché de dire qu'il y a des choses qui vont pas bien quand même.
Exactement. Parce que ce serait dommage. Ce sera pas le nerf de la game.
Exactement. Comme d'habitude, on remercie le collectif Presse F5 qui héberge notre podcast Le Nerf de la Game et Radio Canu pour l'accès au studio. Nous, on se retrouve jeudi prochain à 21h pour parler d'un sujet qu'on n'a pas encore identifié, mais avec Bettina cette fois-ci.
Voilà.
Amusez-vous bien.
Bonne soirée.
Ciao.
Salut.